Bah, ce matin, la lecture est toute trouvée. On la lit au moins une fois par an. Non, c'est pas Matthieu. C'est Luc. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Hein. Luc 2, au verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voilà à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Marie et Joseph le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui avait été écrit dans la loi du Seigneur: tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu jour et nuit, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. J'ai fait exprès de continuer tout le récit. Parce qu'on s'arrête toujours à quand les anges disent bye bye. Mais la fête de Noël n'a aucun sens sans la fête de Pâques. Et autant Noël, on l'a vu, les bergers, il y a les prophéties de Siméon qui dit que Jésus est là, non pas parce que c'est joli, c'est pour le folklore, mais il est là pour le peuple, sauver le peuple d'Israël, sauver l'humanité, pour éclairer les nations aussi. Salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Mes yeux ont vu ton salut. Et Noël n'a aucun sens s'il n'y avait pas eu Pâques, s'il n'y avait pas eu la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que Noël ? Qu'est-ce que la fête de Noël ? Pour nous, chrétiens du 20e siècle, du 21e siècle, pardon, on a changé. Pour nous, chrétiens de 2016, qu'est-ce que la fête de Noël pour vous ? Je vais vous dire déjà ce que Noël n'est pas. Ce n'est pas la fête du petit Jésus. Ce n'est pas plus la fête des enfants. Et c'est encore moins la fête du Père Noël. Vous connaissez l'histoire du veau d'or d'Israël ? Est-ce que Israël a changé de Dieu ? Non, il a fait une représentation de l'Éternel qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Et cette représentation, c'était un veau d'or. Ils n'ont pas créé une nouvelle idole, hein. Ils ne se sont pas détournés de l'Éternel. Ils ont simplement fait une représentation de l'Éternel. Ils se sont fait d'un vrai Dieu, du seul vrai Dieu, ils se sont fait une image d'un faux Dieu. Vous connaissez l'histoire, comment ça a fini. Et je crains qu'au XXIe siècle, Noël soit l'adoration du veau d'or. Le veau d'or, il est habillé de rouge. Il a été créé en 1950, d'après des vieilles résurgences, mais à l'époque, il était vert. Mais il est devenu rouge en 1950 par une grande firme de soda. Et maintenant, quand je vois autour de moi, je vois plus souvent ce bonhomme rouge que l'origine de la fête de Noël. Je vois plus souvent, et quand je regarde, hier j'ai passé 2 heures à retirer toutes les publicités qu'il y avait sur ma messagerie. 4600 mails publicitaires. Bon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais 4600 mails publicitaires, et là j'ai regardé ce matin, il y en avait 26. Depuis hier. Et promotion là-dessus, et fêter Noël ceci, et tout. Le veau d'or, j'avais déjà prêché sur le consumérisme. L'idolâtrie des temps modernes, c'est bien le consumérisme. Et Noël est devenu, avec le Père Noël en tête, la fête du consumérisme. Je voudrais rappeler ce que c'est que Noël. C'est la fête de la merveilleuse espérance dans cette naissance qu'il y a eu. La promesse de Dieu, enfin donnée aux hommes, cette foi dans cette naissance, relue à la lumière de Pâques, bien sûr. Ce que je disais, Noël sans Pâques n'a aucun sens. Noël n'est pas la fête du consumérisme et des cadeaux. Noël, c'est quoi ? C'est la fête des pauvres. La fête des marginalisés, pour prendre un terme plus récent, la fête des migrants, des rejetés, des opprimés, des exploités. Dieu se donne dans le dépouillement le plus total. Quand vous regardez l'image de Luc 2 au début, on peut être que frappé par la pauvreté des personnages. Marie, Joseph, c'est un couple de Galilée, ils ne devaient pas rouler sur l'or. Bon, ils avaient la dodoche de l'époque hein, quand même, c'était un âne. C'était la dodoche du Moyen-Orient, hein. Vous savez que... mais ils n'avaient pas de chameau, ils n'avaient qu'un âne. Jésus, c'est vrai que Dieu il exagère quand même, il envoie son fils dans le monde et pouf, il le met dans la paille. Vous connaissez l'expression « être sur la paille ». Naître dans une mangeoire, dans une étable, parce qu'une crèche c'est une étable. Est-ce que une maman veut ça pour ses enfants quand, au niveau ? Pas de place pour eux, pas de place pour lui. Les auberges sont pleines, les hôtels sont pleins. Ce qui me fait dire qu'en plus, en plus du recensement où les gens devaient bouger de tous les côtés, il devait y avoir à Jérusalem une grande fête religieuse. Et maintenant, on le sait, on le suppose. Vous savez que la date du 25 décembre a été donnée comme ça à l'époque de Constantin. Pourquoi 25 décembre ? Parce que c'est à partir de là que les jours rallongent. Donc que la lumière prend la victoire sur les ténèbres. C'était une image, c'était les fêtes romaines. En fait, ça devait plutôt être le 13 octobre. Pendant la fête de Soukhot, la fête des tabernacles, qui est la fête du Messie. Maintenant, je ne me prononcerai pas sur la véracité de ces dates, puisque de toute façon, on suppose, mais en tout cas, le 25 décembre, les brebis, les bergers, ne sont pas dans les champs, parce que Bethléem est à 800 mètres d'altitude, et le 25 décembre, il fait froid. Et les bergers, les brebis, les moutons, sont dans les bergeries, sont dans les crèches, sont dans les étables. Donc là, pour le coup, Jésus serait né au milieu d'un troupeau. Donc là, ils étaient sortis, donc c'était encore la fin de l'automne. Les bergers, c'était les exploités de l'époque. C'était pas des gens très riches, c'était des ouvriers agricoles. On gardait les troupeaux, quand vous voyez la parabole du fils prodige, ils gardaient les porcs parce qu'il était sur la paille déjà. C'était pour pour avoir un petit boulot. Ils n'étaient pas très riches. Et la plupart n'étaient même pas propriétaires de leurs troupeaux. C'était des grands propriétaires comme il existe maintenant. Et Dieu s'est révélé à eux. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 8. Non, 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens, chapitre 8. Et au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'était dans le dessein de Dieu de s'adresser aux plus pauvres. Il ne s'est pas adressé à Hérode. Il ne s'est pas adressé à la classe moyenne de Jérusalem. Il s'est adressé aux bergers de Bethléem. Jésus, qui était riche, qui était fils de Dieu, est venu et s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et on peut lire aussi dans Luc 4, au verset 18, C'est la première prédication de Jésus dans sa ville de Nazareth. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le rôle du Messie, c'est le passage d'Ésaïe, hein, Ésaïe 9. La première chose qu'il a fait, j'ai été Messie, oint, ça veut dire Messie, j'ai été oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi cette bonne nouvelle aux pauvres ? C'est le royaume de Dieu s'est approché. C'est une bonne nouvelle, pas que pour les pauvres d'ailleurs, c'est pour tous les hommes, la bonne nouvelle. Mais en priorité aux pauvres. Est-ce que c'est simplement spirituel ? Est-ce que c'est de dire spirituellement, bah écoute, si tu crois en Jésus, tu es sauvé, va, et puis retourne dans la rue ? Ou c'est aussi la bonne nouvelle de dire que ta situation de pauvre peut changer en Jésus-Christ. Et de pauvre, je ne veux pas dire que tu vas devenir riche, mais tout au moins vivre décemment, vivre normalement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus nous a sauvés. Il a fait de nous son Église. Nous sommes son corps, nous devons continuer ce que Jésus a fait. Il nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je regarde l'histoire de l'Église, au début, ce sera peut-être le sujet d'une autre prédication, pas celle de Noël, mais j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Il y a toujours eu, que vous le regardez dans Tite, dans Pierre, dès le commencement de l'Église, le souci de s'occuper des pauvres, de l'œuvre sociale, ce qu'on va dire, ce qu'ils appelaient l'œuvre sociale, à partir de Acte 6. Acte 6, la première chose qu'ils ont fait, c'est de mettre des diacres pour s'occuper des veuves. Bon, c'était leurs propres veuves, hein, c'était les veuves de l'Église, mais après, pas que. Ça s'est étendu à toutes les veuves. On peut lire dans 1 Pierre 2:12, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, non, ça 2:11, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ils remarquent vos bonnes œuvres. C'était quoi les bonnes œuvres ? C'était justement ce que faisait l'Église. Je vais simplement vous, sans m'étendre, vous raconter quelques passages qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont dans des écrits des premiers temps, qui ne sont pas écrits forcément par des chrétiens, hein, des gens, mais plutôt par des Romains. Jusqu'au 3e siècle, les églises faisaient ce qu'on appelait des agapes. Agape, ça veut dire amour. C'était quoi une agape au IIIe siècle ? C'était l'église invitait tous les pauvres de la ville où ils étaient pour faire un repas en commun avec les chrétiens aussi. Donc tous les chrétiens et les pauvres de la ville mangeaient ensemble. Et ça a tellement surpris les Romains qu'il y a dans un écrit, c'est Tertullien qui dit « C'est bizarre parce que chez les chrétiens, la simplicité des agapes chrétiennes n'ont rien à voir avec nos orgies. » Il s'agit ici d'une œuvre de charité organisée du début à la fin dans un esprit religieux, commençant et s'achevant par une prière et qui n'est pas suivie de désordre comme le sont nos banquets. C'est intéressant de voir qu'un païen fasse déjà la différence entre les chrétiens et eux-mêmes disaient que pour eux, un banquet, de toute façon, une naga, enfin, ils appelaient ça une orgie, ça se finissait toujours mal. Et là, ils étaient surpris qu'il y avait des gens qui faisaient la même chose avec des pauvres et que c'était dans un esprit religieux. En 400, l'empereur Constantin est devenu chrétien. Il a fait le christianisme, la religion officielle. Ça a été le commencement de la fin, d'ailleurs. Et celui qui lui a succédé s'appelait, c'était son neveu, il s'appelait Julien l'Apostat, tout de suite après. Et il portait bien son nom, Julien l'Apostat, parce que lui, il a voulu remettre le culte des idoles romaines en place. Et il a chargé quelques espions en disant aux espions, mais pourquoi le christianisme a eu autant d'essor ? C'était notre religion, la religion romaine, la religion païenne, était là depuis des siècles. Tout d'un coup, on s'est fait balayer en moins de 300 ans. Pourquoi ont-ils... Va les espionner et dis-nous pourquoi, quelle est la force des chrétiens ? Et c'est ce qu'il a fait. Et il est revenu. Il a dit, les chrétiens, en plus de croire en Jésus-Christ, ont une force que personne n'a jamais fait auparavant, c'est celle de s'occuper des pauvres. Personne ne s'occupait des pauvres, même pas les Romains. Ils méprisaient les hommes puisqu'il y avait des esclaves et tout ça. C'était la seule communauté qui s'occupait des pauvres. Et il dit quand ils s'occupent des pauvres, pas que des leurs, mais de tous les pauvres, que ce soit leur communauté ou les autres. Voilà, je resterai là. J'ai une question à vous poser. Vous savez qui c'est qui a créé les restaurants du cœur, les restos du cœur ? Coluche ? Non. Les chrétiens. Les chrétiens du IIIe, jusqu'au IIIe siècle, quand ils faisaient les agapes, c'était les restos du cœur. Et dans l'histoire de l'Église, hélas, on a toujours opposé deux passages. Vous les connaissez ? On peut lire le premier, c'est Éphésiens 2:8. Vous le connaissez tous, ce passage. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je m'arrête là. Et je lis, je continue. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, bien sûr, afin que nous les pratiquions. Et Jacques, vous connaissez l'autre ? Jacques au chapitre 2 et au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Et là, il n'y a aucune ambiguïté sur les œuvres. Parce que je veux dire, moi, je porte des œuvres, ma sanctification intérieure, mon trait de caractère, tout ça, c'est des œuvres. Là, dans le Jacques, quand il te parle d'œuvres, il te parle de quelqu'un qui est nu, qui manque de nourriture, et qu'on va leur dire, va en paix, chauffe-toi, et rassaisis-toi, et que tu leur donnes rien, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi qui as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et c'est ce qu'a fait l'Église. L'Église a montré la foi par ses œuvres. Je l'ai remarqué, je vous l'ai dit, les premiers, quand il y en a plein d'écrits de païens qui ont écrit sur les premiers chrétiens, et à chaque fois ce qui ressort, en plus de la doctrine de Jésus, c'était qu'ils s'occupaient, qu'ils avaient une œuvre sociale. Montre-moi là, ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres ? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et je veux pour ajouter tout ça, toute la liste de Hébreux 11, des héros de la foi. Les héros de la foi, c'est bien, oui, c'est par la foi que, mais ils firent ceci, ils firent cela, ils firent ceci, ils firent cela. Et je continuerai la liste des héros de la foi. J'en ai une petite liste, hein, parce que bon, Hébreux, ça a été écrit au début de l'ère chrétienne. Je pose le micro. J'ai ma liste, elle est longue, la liste des héros de la foi. Savez-vous qui a créé les écoles maternelles ? Jean-Frédéric Oberlin, de 1740 à 1826, a créé les écoles maternelles, qui n'existaient pas auparavant. Qui a créé les écoles normales ? C'est pareil, c'est un chrétien, c'est Félix Neff. Qui est-ce qui a créé la suppression du travail de nuit pour les enfants en 1841 ? Daniel Legrand, chrétien. Qui est-ce qui a créé le repos du dimanche obtenu vers la fin du 19e siècle, alors que c'était dans la parole, hein, savoir que les Juifs avaient créé le septième jour. Enfin, quand je dis les Juifs, c'était surtout l'Éternel, le Dieu d'Israël qui avait créé le septième jour. Mais on avait perdu ça, et jusqu'au 19e siècle, les gens travaillaient 7 jours sur 7. Ce sont des ouvriers chrétiens européens qui ont redemandé, c'était les premiers syndicats, qui ont demandé ça. Qui est-ce qui a créé les premières coopératives de consommation et de production ? Ce sont les chrétiens. Qui est-ce qui a créé les premiers orphelinats ? C'est Georges Müller, chrétien aussi. Et à tel point qu'il a tellement eu de succès qu'il s'est retrouvé avec 2000 orphelins à Bristol, c'est en Angleterre. Et pire encore, le médecin Barnardo, qui était chrétien, lui avait suivi aussi un peu ce que faisait Müller. Lui, il est arrivé à 60 000 enfants à Londres. John Bost, qui lui savait qu'un enfant déficient handicapé mental à l'époque était mis dans les étables avec les animaux, livré à lui-même dans ses excréments. John Bost en a eu pitié et l'a créé à la force, dans le sud-ouest, des fondations, une fondation pour s'occuper de tous ces déficients mentaux. On peut l'avoir, d'ailleurs, c'est à côté de là où habitait Corinne quand elle était jeune. Qui est-ce qui a supprimé la traite des Noirs ? C'est Wilberforce. Oui, Wilberforce. Qui est-ce qui a fait la suppression de l'esclavage aux États-Unis ? C'est aussi beaucoup de chrétiens qui ont insisté par rapport à ça. Premier cours du soir pour adultes, c'est les chrétiens. Première colonie de vacances, c'est le pasteur Buau. L'armée du salut, c'est William Huff. Abolition du bagne de Cayenne, c'est le major Péan, qui était chrétien aussi. L'amélioration du régime des prisons, c'est Elisabeth Fry, chrétienne. L'organisation du service de santé aux armées, en particulier du travail parmi les blessés de guerre, c'est Florence Nightingale. La création de la Croix-Rouge internationale, c'est Henri Dunant, avec son mot d'ordre, tous frères, chrétiens aussi. Création du scoutisme, Baden Powell, chrétien. Le statut des objecteurs de conscience aussi, d'ailleurs il y a un film qui est sorti là, sur ce sujet-là. La reprise des principes bibliques dans la Déclaration internationale des droits de l'homme adoptée par l'ONU aussi. L'action sociale en mission avec des hommes tels que Albert Schweitzer, Gabon par Pierre Dupré, au Burkina Faso. Les soins palliatifs, 1967 seulement, créés aussi par un chrétien, Cicely Saunders. La liste est longue des héros de la foi. C'est par la foi qu'ils ont fait ça, mais c'est des œuvres préparées d'avance pour le Seigneur. Alors, par rapport à Noël, maintenant, c'est que Jésus est venu dans le monde, ça a été le don de Dieu pour le salut de l'humanité, mais c'est pas une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans seulement. Cette histoire, elle continue. L'héros de la foi de Actes de Matthieu, de Hébreux 11, il y avait une liste, notamment des personnages de l'Ancien Testament. Moi, j'ai continué la liste jusqu'au 19e, 20e siècle. Dans cette salle, si ça se trouve, il y a des héros de la foi. Et le héros de la foi, ben, il se voit par ses œuvres aussi. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je me suis toujours posé la question pourquoi Coluche avait remis sur place les Restos du Cœur. Et quand j'ai posé cette question au Seigneur, il m'est revenu l'histoire du bon samaritain. Je connaissais cette histoire du bon samaritain. Quelqu'un a été blessé sur la route. Il y est passé quoi ? Un sacrificateur ? Il n'avait pas le temps, il était trop occupé pour son service au temple. Après, il y avait un lévite pareil. Il n'avait pas le temps, il est passé outre, il n'avait pas envie d'avoir des histoires avec la police. Et je me suis reconnu dans le sacrificateur et le lévite, parce que souvent, on est tellement occupé par nos activités spirituelles, ou par notre travail tout simplement, qu'on n'a pas le temps. Et là, il arrivait à un gars, méprisé de tous, le samaritain. Vous savez que le samaritain, ça correspond à notre arabe basique. Quand je dis arabe, c'est vraiment péjoratif tel qu'on peut l'entendre autour de nous. Celui que personne n'aime. Et lui, il va s'arrêter, il va prendre cet homme, il va le soigner. Et je me souviens de Coluche à l'époque où il était encore vivant. Il n'avait pas vraiment bonne réputation dans les églises évangéliques. C'était un saltimbanque, il disait des grossièretés. Il disait des vérités des fois aussi. Il n'avait pas du tout bonne réputation. Et je me suis dit, mais c'est notre bon samaritain, lui. Celui que tout le monde méprise, le saltimbanque. Mais y avait-il pas des chrétiens à cette époque-là, et je me compte dedans parce que j'étais chrétien à cette époque-là, pour remettre en place ce genre de choses? Que Dieu soit obligé de prendre un saltimbanque qui n'était pas du tout croyant pour faire ça. Mais cette œuvre, elle tient. Enfin bon, Coluche ne voulait pas qu'elle tienne, elle voulait qu'elle soit juste éphémère, même malgré... Hélas, elle a un grand succès maintenant, ce qui n'est pas vraiment un bon signe. Alors, en cette veille de Noël, ce que je voulais vous dire, c'est rééquilibrer votre foi. Pour moi, je suis convaincu maintenant, et ça a été le problème de l'Église, entre le 19e siècle et le 20e siècle. 19e siècle, l'Église était trop basée sur les œuvres sociales. C'était que les œuvres, que les œuvres, que les œuvres. On en a oublié la foi. C'est-à-dire, après, on faisait de l'humanitaire. Donc l'Église, quand elle a vu ça, a dit non, 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 non. C'est d'abord l'évangélisation, et après on fera... Et au XXe siècle, c'était le contraire. C'était l'évangélisation, 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 sans les œuvres. Je voudrais que pour le XXIe siècle, on est au début du XXIe siècle, l'évangélisation se fasse avec les œuvres comme elle a toujours été faite au début de l'Église. Je dis « je veux », bien sûr, c'est pas la décision de Lionel. C'est qu'on soit dans notre tête, dans notre esprit, que nous sachons que si nous avons une foi, c'est une foi vivante qui doit découler sur les autres. Voilà le message de Noël. Que ça soit pas la course aux richesses, que ça soit pas la course aux cadeaux, que ça soit pas la course au tout nouveau, au dernier, comme je vous avais dit, au niveau du consumérisme. Mais que cette fête de Noël soit une remise en cause de ce que c'est vraiment la foi, avec les œuvres préparées d'avance, bien sûr. Pas celles qu'on veut faire à tout prix. Les œuvres préparées d'avance, mais je suis convaincu que l'évangélisation marche avec les œuvres. D'ailleurs, c'est ce qui existait au début. Hein. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Vous pouvez vous lever, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous accompagne chaque jour, Seigneur. Et nous voulons vraiment te remercier pour ce don, le don de ton Fils, Seigneur, que tu as donné pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, nous ne voulons pas garder ce don pour nous uniquement, Seigneur, mais pouvoir le partager, Seigneur, le partager auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès des opprimés, auprès des pauvres, auprès de ceux qui sont dans le besoin. Nous voulons vraiment partager, Seigneur, cette parole qui sauve, mais aussi les œuvres qui les accompagnent. Oui, Seigneur, Tu as été loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour la plupart, Seigneur, nous ne sommes pas riches. Nous avons été choisis parmi des gens simples. Mais Seigneur, de nous, tu peux nous faire riches, Seigneur, riches en bonnes œuvres, riches de cœur. Oui, Seigneur, quand nous voyons, Seigneur, tout ce qui se passe autour de nous, dans d'autres pays, dans d'autres régions, nous voulons vraiment dire que nous sommes riches. Riches, mais nous voulons être riches de cœur, Seigneur. Quelqu'un disait que l'Occident est tellement pauvre qu'ils n'ont plus que de l'argent pour vivre. Cette parole est vraie, Seigneur. Cette parole est vraie, c'est nous sommes peut-être riches d'argent, mais notre cœur est pauvre. Nous ne voulons pas ressembler à cette église de l'Apocalypse qui se croit riche, qui se croit bien habillée, alors qu'elle est en réalité, pour Jésus, elle est pauvre, aveugle et nue. Et Seigneur, nous voulons que tu achètes de toi un collier. Nous voulons acheter de toi, Seigneur, la grâce de devenir riche dans notre cœur. Mais Seigneur, nous voulons que cette fête de Noël soit une fête pleine de richesses, non pas de richesses matérielles, mais de richesses spirituelles et humaines. Merci Seigneur pour cela. Je bénis Seigneur chacun d'entre nous, Seigneur, en ton nom. Merci que nous ne soyons pas oublieux, que nous puissions, en cette nouvelle année 2017, faire une véritable réforme dans nos vies, perso d'abord, puis après dans notre société, que nous puissions vraiment de plus en plus sortir, de plus en plus montrer qui nous sommes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, il y a un repas, non ?